L'écoute des RFI, il est 21h ici à Paris, 20h en temps universel.
Loïc Bussière.
C'est l'heure de votre rendez-vous quotidien avec le journal en français facile, le journal co-présenté ce soir par Aurélien Devernois. Bonsoir Aurélien.
Bonsoir Loïc, bonsoir à toutes et à tous.
À la une, ce soir, la minorité copte de nouveau cible d'un attentat. En Égypte, 7 personnes ont été tuées dans l'attaque d'un bus dans la ville de Minya. Il s'agit de l'attentat le plus important contre la minorité chrétienne depuis plus d'un an.
La condamnation du meurtre de Jamal Khashoggi par Benjamin Netanyahou, condamnation à minima pour le Premier ministre israélien qui s'exprimait pour la première fois sur cette affaire. Les explications dans ce journal de notre correspondant à Jérusalem.
Et puis aux États-Unis, Donald Trump veut réformer, revoir donc le droit d'asile. Nouvelle déclaration choc du président américain à quelques jours des élections de mi-mandat aux États-Unis.
Le journal en français facile.
Direction l'Égypte pour débuter ce journal. L'Égypte où 7 chrétiens coptes ont été tués dans une attaque attribuée à l'organisation État islamique.
Et le groupe djihadiste l'a revendiqué en début de soirée. Il s'agit de l'attentat le plus important contre la minorité chrétienne depuis plus d'un an. 7 personnes, vous le disiez, ont été tuées, plus d'une dizaine de blessés dans la province de Minya, 300 km au sud du Caire. Les fidèles coptes se rendaient en pèlerinage au monastère d'Anba Samuel dans le désert à l'ouest de Minya. On fait le point avec notre correspondant Alexandre Bouchanti.
C'est sur la route menant au monastère d'Anba Samuel que le bus de pèlerins a été attaqué. Une route qui devrait être sécurisée puisqu'un bus de pèlerins se rendant au même monastère y avait été attaqué l'année dernière. Une attaque qui avait fait 29 morts. Près d'un tiers des habitants de la province de Minya sont coptes, ce qui en fait la province numéro 1 en pourcentage de chrétiens en Égypte. Des chrétiens qui sont régulièrement agressés par des islamistes pour des questions de lieux de culte. L'obtention d'un permis de construction d'église étant très compliquée en Égypte, les coptes transforment des maisons en lieux de culte informels. Une transformation qui provoque la colère des islamistes. Des dizaines de maisons ont ainsi été incendiées dans la province de Minya. Des agressions qui sont pratiquement impunies. Pour acheter la paix sociale, le gouvernement conclut des réconciliations forcées entre les deux parties. Alexandre Bouchanti, Le Caire, RFI.
À la une également, l'affaire Jamal Khashoggi, ce journaliste saoudien tué à Istanbul au début du mois, et cette déclaration ce soir du président turc.
Oui, Recep Tayyip Erdogan qui s'exprime dans une tribune publiée par le Washington Post, journal pour lequel travaillait justement Jamal Khashoggi. Recep Tayyip Erdogan qui affirme que l'ordre de tuer Jamal Khashoggi émanait des plus hauts niveaux du gouvernement saoudien. C'est ce qu'affirme le président turc qui écarte toutefois une implication du roi Salman. Depuis le début de cette affaire, la Turquie pointe du doigt la responsabilité de l'Arabie saoudite qui, après avoir un temps soutenu que le journaliste était mort dans une rixe, a fini par évoquer une opération non autorisée par le pouvoir. Autre commentaire concernant cette affaire, celui de Benjamin Netanyahou, qui évoquait un peu plus tôt des faits horribles, selon ses propres termes. Le Premier ministre israélien, qui ne s'était jusqu'à maintenant pas exprimé sur le sujet, il appelle par ailleurs à préserver la stabilité de l'Arabie saoudite, une condamnation à minima, donc, qui traduit la volonté de Benjamin Netanyahou de ne pas froisser un pays avec lequel Israël n'entretient pas de relations diplomatiques, mais qui est un allié dans la lutte contre l'Iran. À Jérusalem, les explications de Guilhem Deltaï.
Son silence sur le sujet avait été nettement remarqué. Pendant un mois, Benjamin Netanyahou n'a pas fait un seul commentaire en public sur le meurtre de Jamal Khashoggi. Et ce jeudi, le journal Washington Post avait affirmé, citant des responsables de la Maison Blanche, que le Premier ministre israélien avait demandé à l'administration Trump de continuer à soutenir le prince héritier saoudien sous le feu des critiques. C'est donc sous la pression de cet article que Benjamin Netanyahou a fini par faire une déclaration publique en laissant s'installer l'idée qu'il avait défendu Mohammed Ben Salman sans condamner les faits. Le chef du gouvernement prenait le risque de s'isoler de ses alliés occidentaux et d'apparaître du côté de dirigeants autoritaires. Le premier ministre israélien a donc finalement déclaré « Ce qui s'est passé au consulat d'Istanbul est horrible et il faut s'en occuper ». Mais pour ne pas froisser un pays devenu un partenaire dans la lutte contre l'Iran, il a ajouté qu'il est très important pour la stabilité stabilité du monde, que l'Arabie Saoudite reste stable. Lui, qui présente son pays comme la seule démocratie du Moyen-Orient, n'a pas dit un mot sur l'importance de préserver la liberté d'expression. Pour Benjamin Netanyahou, le plus important est d'éviter de compromettre un rapprochement jugé stratégique avec Riyad. Guillaume Deltaï, Jérusalem, RFI.
Et Benjamin Netanyahou qui s'est également exprimé sur le futur déménagement de l'ambassade du Brésil à Tel Aviv, qualifiant d'historique l'annonce du nouveau président brésilien Jair Bolsonaro, une décision jugée au contraire illégale et provocatrice par les Palestiniens.
Le journal en français facile.
Il est 16h et bientôt 6 minutes à Washington. Venons-en à cette nouvelle déclaration choc signée Donald Trump, le président américain, qui veut réformer le droit d'asile aux États-Unis.
Et qui veut mettre un terme à la politique qui consiste à relâcher les demandeurs d'asile jusqu'à ce que leur cas soit étudié par la justice. Donald Trump qui souhaite aussi limiter la possibilité de déposer sa demande d'asile au seul port d'entrée dans le pays. Actuellement, cette requête peut être déposée n'importe où dans le pays. Dans une allocution à la Maison-Blanche, le président américain a une fois de plus décrit la caravane de migrants en route vers la frontière sud de son pays comme une menace, une stratégie de la peur qui vise son électorat, mais qui a aussi des effets sur la communauté latino-américaine. Correspondance à Washington, Anne Corpé.
Mon obligation est de défendre le pays. Nous n'avons pas le choix. C'est une invasion, a répété Donald Trump ce jeudi. Le président n'a de cesse de dénoncer une menace imminente. Il a déployé l'armée. Il évoque une réforme de la Constitution sur le droit du sol, un changement des règles du droit d'asile et présente plus généralement l'immigration comme un danger existentiel contre lequel il serait le seul rempart. Ce discours, qui a pour but de mobiliser un électorat blanc confronté à des angoisses identitaires, risque aussi d'avoir un impact sur l'électorat latino-américain. Frédéric Harris, professeur de sciences politiques à l'Université de Columbia.
Il y a ce sentiment de peur qui décourage les latino-américains, en particulier les américains d'origine mexicaine, d'aller voter. Parce qu'ils sont inquiets pour les membres de leur famille qui peuvent ne pas avoir de papier. Et donc la rhétorique de la peur décourage les électeurs parce qu'ils ont peur que l'État vienne les chercher pour les punir d'avoir participé au scrutin.
Il y a plus de 29 millions d'électeurs latino-américains aux États-Unis, leur nombre ne cesse d'augmenter, mais leur taux de participation au scrutin décline depuis 2006. En 2014, lors des dernières élections demi-mandat, seuls 27% d'entre eux se sont déplacés aux urnes. Anne Corpé, Washington, RFI.
Et puis toujours concernant les États-Unis, Washington annonce la reprise des sanctions économiques contre l'Iran. Des sanctions qui avaient été suspendues par l'administration Obama dans le cadre des accords sur le nucléaire iranien. Dans un communiqué commun, la France, l'Allemagne, le Royaume-Uni et l'Union européenne disent ce soir regretter vivement cette décision des États-Unis, Aurélien.
L'actualité des sports à présent avec le tennis et la suite des quarts de finale du tournoi de Bercy.
Et on rejoint tout de suite notre envoyé spécial sur place, Eric Mamrut. Bonsoir, Eric.
Bonsoir.
Avant l'affiche Federer-Nishikori, ce sont Marine Cilic et Novak Djokovic qui s'affrontent en ce moment pour une place en demi-finale. Et le Serbe est en difficulté, Eric.
Effectivement, petit événement, puisque Novak Djokovic a perdu la première manche face à Marin Cilic, 6-4, et c'est un événement car il restait sur 30 manches gagnées consécutivement. Il est vrai que Novak Djokovic est particulièrement en forme en cette fin de saison, puisqu'il a remporté les 20 matchs, les 20 rencontres qu'il a disputé dernièrement, mais il tombe sur un excellent Marin Cilic, 7e joueur mondial, il est vrai, vainqueur de l'US Open en 2014, finaliste de l'Open d'Australie en début d'année, un Marin Cilic très très puissant qui a véritablement étouffé le Serbe Djokovic dans le premier set, donc succès logique 6-4, réaction de Novak Djokovic dans la deuxième manche, obligé de hausser son niveau de jeu et ça a marché puisqu'il mène 4-2 dans cette deuxième manche. Il est au service, il mène 40-30 sur son engagement.
Eric Mamrut, envoyé spécial donc à ce tournoi Masters 1000 de tennis de Paris. Bercy, RFI, il est 21h10 à Paris. C'est la fin de ce journal en français facile.